France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, cinquième entretien. Vie et travail à l'époque surréaliste, 1930-1940.
En quoi votre pratique à ce moment-là se distingue-t-elle, justement ? De la pratique surréaliste qui consiste à créer une espèce de vacuité et de déroulement du langage intérieur, de l'écriture automatique, donc, en quoi ce que vous appelez la préparation de la bombe, de l'engin, en quoi cette pratique, tout en faisant sa part à un irrationnel que j'aimerais que vous nous définissiez, se distingue-t-elle des textes qui viennent au jour comme des textes, justement, voulant rendre compte du fonctionnement de l'esprit ?
Mais là, je vais revenir aux choses les plus concrètes et les plus exactes. Dans l'appartement où je vivais avec ma mère, j'avais arrangé une petite pièce, n'est-ce pas, qui était un ancien cabinet de toilette, où il n'y avait qu'une table. Cette pièce était sans fenêtre et je ne pouvais pas y vivre longtemps, vraiment un peu comme un anarchiste travaillant au secret. Quelles étaient mes armes ? Eh bien, au mur, j'avais épinglé un alphabet en gros caractères et sous la table, il y avait un littré. Je travaillais donc à préparer ma bombe avec les lettres et avec les mots. Maintenant, qu'est-ce que je fourrais là-dedans ? Quelle était la poudre ? Eh bien, c'était évidemment, en une certaine façon, l'irrationnel. Et vous comprenez bien que je ne pouvais pas faire de l'écriture automatique. Enfin, il ne s'agissait absolument pas de ça, puisque chez moi, je travaillais en général les pieds sur la table pour ne pas travailler comme on travaille à l'école, pour me mettre dans un espèce d'état second, dans lequel la nécessité complète passant par mon corps, n'est-ce pas, et aboutissant à ma plume par l'intermédiaire de mon bras, ce que j'inscris est une espèce de trace de ce qu'il y a de plus profond en moi à propos de telle ou telle notion, n'est-ce pas ? Alors, c'est là que s'insèrent les premiers textes à l'heure du parti pris des choses, et nous en parlerons plus tard. Je travaillais donc avec l'irrationnel venant de la profondeur de mon imprégnation enfantine, venant du fond de mon corps. Et là, ce n'est pas si loin, si vous voulez, d'une démarche comme celle d'Artaud, mais avec cette différence essentielle que j'avais l'alphabet sur le mur, le dictionnaire sous moi, et que je savais parfaitement ce que j'allais faire. Et ce que je faisais était un texte, et que je ne sortais pas de la langue française, et que je ne voulais pas en sortir, que j'étais assez, je ne peux pas dire clairvoyant, ça a l'air trop bête, au milieu de l'irrationnel qui sortait de moi-même, pour me rendre compte au fur et à mesure, parce que j'étais en même temps le lecteur de ce que j'inscrivais, une espèce de ce que je traçais, immédiatement je me rendais bien compte que ça allait entrer non seulement dans la langue française, mais dans la bibliothèque française, que finalement je faisais un livre. Évidemment, ce qui est absurde en quelque façon chez les surréalistes, c'est de croire qu'ils faisaient autre chose que de la littérature. Finalement, tout ça est maintenant dans l'histoire littéraire et tout ça est classé dans les bibliothèques françaises. Eh bien, moi, j'en ai été toujours conscient et j'ai toujours été assez positif pour me rendre compte de cela. Et j'avais une sorte de froideur vis-à-vis de ce que je faisais, que j'ai toujours gardé. Froideur en même temps que l'ardeur qui vient du fond du désir de l'éros qui fait écrire. Alors, pour aller vite, parce qu'il faut que nous allions vite, n'est-ce pas ? Il se trouve que, quelques années plus tard, j'ai fait acte d'adhésion au groupe surréaliste. À quel moment ? Eh bien, exactement au moment où ce groupe a commencé à connaître des schismes très importants, exactement au moment du second cadavre, qui était le cadavre contre Breton, et où toute la presse bourgeoise, naturellement, disait, ben, c'en est fini, ah, nous sommes bien contents, voilà les gens de talent qui s'en vont, parce qu'ils s'en allaient à ce moment-là Évidemment, des gens qui avaient du talent, comme, mettons, Michel Leiris, comme Raymond Queneau, comme Desnos, comme Vitrac, comme Artaud, comme Limbourg, j'en oublie certainement, n'est-ce pas? Et il ne resterait guère plus que les trois têtes principales, malgré tout, enfin, qui étaient Breton, Aragon et Éluard. C'est à ce moment-là où on leur donnait le coup de pied de l'âne et on disait que c'était fini, que j'ai écrit à eux trois en leur disant « Il y a longtemps que je m'intéresse à ce que vous faites et que je suis proche de vous. Je n'ai pas cru utile de vous le dire jusqu'à présent. Je vous le dis au moment où tout le monde dit que c'est fini de vous, etc. » Et j'ai fait adhésion physique, enfin au groupe, c'est-à-dire que je suis allé au 42 rue Fontaine chez Breton et je suis allé au Cyrano, qui était le café où ils se réunissaient à ce moment-là. Et j'ai fait ça pendant un peu moins d'un an. D'ailleurs, je ne me suis jamais fâché avec l'un ni avec l'autre. J'ai seulement quitté cela pour une raison parfaitement surréaliste. À ce moment-là, je poursuivais une jeune fille, d'ailleurs celle qui est devenue ma femme. Je la poursuivais pas tellement elle que je cherchais à l'arracher à ses parents, ce qui est une figure aussi du point de vue littéraire, puisque la beauté adolescente, n'est-ce pas, doit être arrachée à sa famille ancienne. C'est l'histoire de Roméo qui va chercher Juliette dans le palais des Capulet, oui, sans doute, n'est-ce pas, sombre comme nous sommes, dit-il à ses compagnons, et pour aller ravir Juliette à la vieille rhétorique, à ses vieux parents, eh bien, sombre comme nous sommes, disent-ils en entrant dans la fête nocturne, c'est nous qui, avec des torches, porterons la lumière. Alors, voilà, j'étais donc dans cette situation vis-à-vis du groupe surréaliste, j'y ai adhéré, j'ai signé le manifeste qui annonçait le surréalisme au service de la Révolution. C'était donc exactement au moment de la mutation, si vous voulez, au commencement de ce qu'on appelle dans les manuels de littérature actuellement, ou d'histoire littéraire, la seconde époque du surréalisme, c'est le moment de sa politisation. Parce qu'à ce moment-là, nous arrivions en 1929-30-31, la crise financière, d'une part, et d'autre part, la montée de l'hitlérisme. Donc, la menace qui se profilait de façon très lugubre. Sur l'esprit, disons, sur l'esprit aussi bien que sur les populations et sur les territoires. Alors, à ce moment-là, il s'est trouvé aussi que j'ai été moi-même, par la force des choses, les exigences du temps, obligé de chercher du travail aussi parce que la famille de la jeune fille que je voulais épouser ne me l'aurait certainement pas donné si j'étais resté simplement un anarchiste de cabinet et un membre du groupe surréaliste. C'est pas pour ça que j'ai quitté les surréalistes, c'est parce qu'il fallait trouver du travail. Alors j'ai trouvé du travail, je suis entré dans une sorte de bagne qui s'appelait les messageries Hachette, n'est-ce pas, un bagne de premier ordre, hein, avec... un patron que nous avons eu, finalement. Il s'est suicidé après... Enfin, suicidé, non, il est mort de consomption et de dépit après la signature du contrat collectif en 1937. Je l'ai décrit dans un texte qui s'appelle « R.C. Seine » et qui est publié dans le Parti Pris des Choses. Par exemple, on vivait dans des salles qui pouvaient être surveillées par des gardes-chiourmes, n'est-ce pas, qui circulaient dans les couloirs des policiers de la maison, des sortes de cages vitrées, où seuls les chefs de service avaient un peu de glace dépolie jusqu'à une certaine hauteur, mais on pouvait aussi surveiller les chefs de service, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors les sténos, les dactylos avaient des amendes si elles ne faisaient pas tant de frappes à la minute, etc. Ce qui explique enfin que vraiment j'étais tout à fait prolétarisé, n'est-ce pas? Mais alors prolétarisé, c'est-à-dire que je ne faisais aucun texte à publier dans les revues ni surréalistes ni communistes de l'époque. Mais je faisais des textes comme Europe, par exemple, enfin une revue s'appelait Europe. Je n'adhérais pas du tout au groupe des écrivains communistes, absolument pas, mais je faisais de l'action. J'ai été secrétaire adjoint du comité des cadres au moment de 1936, CGT, et nous étions en liaison dans les groupes intersyndicaux avec les syndicats du livre, du papier, et c'est d'ailleurs peu de temps après que j'ai compris qu'il fallait adhérer au Parti communiste parce que c'était le seul qui, en matière syndicale, avait une action efficace, n'est-ce pas? Et qu'il fallait une ligne qui permette d'avoir une action efficace du point de vue syndical, n'est-ce pas? Donc, je crois que tout cela était aussi très authentique. Et puis, c'était la force des choses, comme je le dis, et la force du temps, enfin, l'exigence du temps. À ce moment-là, j'ai pris les positions que je viens de rappeler.
Mais comment, au milieu de ces événements, gardez-vous le contact avec votre écriture même?
Bien naturellement, j'étais tout à fait furieux aussi de la façon dont je vivais, n'est-ce pas, pointant à 8h ou 8h30 du matin, puni si j'avais une minute de retard, et travaillant presque, étant donné les trajets, enfin j'habitais à Belleville à ce moment-là, presque 12 heures par jour, et j'étais furieux, et je pensais que je n'existais guère, sinon dans les cellules ou dans les comités syndicaux, et dans les meetings, mais je n'existais guère quant à moi-même et à ma fonction d'écrivain. Alors, que me restait-il pratiquement, je l'ai dit dans un texte, il me restait 20 minutes par jour, le soir, après m'être occupé aussi de ma femme, et aussi avant que le sommeil me tombe dessus, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai écrit les textes brefs du parti pris des choses, ou plutôt j'ai continué à les écrire, n'est-ce pas? Je mettais un abîme, comme je l'ai dit plus tard, un objet, une notion, n'importe laquelle, n'est-ce pas? N'importe laquelle. Et j'ouvrais la trappe, et j'écrivais des textes que je combinais, et que j'agençais, comme je l'ai expliqué aussi, par les mots et par les lettres et par les choses et par les boucles des consonnes et par les points sur les i et par les virgules, etc., comme des bombes. Eh bien, j'ai fait cela, c'est-à-dire la plupart des textes du Parti pris des choses ont été écrits pendant les 20 minutes qui me restaient le soir avant de m'effondrer dans le sommeil et d'où je ne ressortais que pour me précipiter dans le métro. Télégraphe et rejoindre la station Réaumur, n'est-ce pas, d'où je sortais pour travailler chez Hachette. Voilà ce que j'écrivais et comment je l'écrivais à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'ai pas lâché du tout, malgré tout, ma position qui était celle de mon loisir relatif avant que je ne commence à travailler.
Donc, parce que simultanément, vous travaillez au Parti pris des choses dans les conditions que vous venez de rappeler, vous avez d'autre part cette prise de position politique et en même temps, la guerre, au fond, éclate presque aussitôt.
La guerre. Alors à ce moment-là, bon, j'étais donc membre du Parti communiste et j'ai été mobilisé, car j'avais déjà 40 ans en 1939, j'ai été mobilisé dans un service de COA, de Comité ouvrier d'administration, à Grand-Quevilly, près de Rouen. À ce moment-là, évidemment, que s'est-il passé? Eh bien, je suis resté là jusqu'au moment où l'avance allemande a fait que nous avons dû déloger. D'ailleurs, les Allemands étaient en face, de l'autre côté de la Seine, n'est-ce pas, quand nous sommes partis un beau matin. Et nous avons fait l'exode qui nous a conduit par étapes près de Blois, et sous les bombardements et sous les mitraillages de l'aviation allemande ou italienne, jusque vers Langon, que vous connaissez, puisque vous êtes un peu natif de cette région. Bon, à ce moment-là, que faisais-je? Au point de vue écriture, eh bien, relativement rien. Au moment où Aragon écrivait le Crève-Cœur, n'est-ce pas, où prenait son inspiration du Crève-Cœur et faisait, somme toute, de la poésie patriotique et sentimental dans le style exact. Enfin, je suis presque un plagiat d'Apollinaire, n'est-ce pas? À ce moment-là, je n'écrivais que des notes qui s'appellent « Souvenirs interrompus ». Et je ne faisais que mon travail militaire, enfin, qui n'était pas grand-chose, c'était un travail de bureau dans le service de COA. Et puis j'ai fait l'exode et ensuite je me suis trouvé démobilisé vers 1940. J'ai retrouvé ma famille qui, de son côté, avait reflué en zone sud. Et là, brutalement, je me suis trouvé absolument sans argent et obligé de trouver une situation. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut dire que j'avais été mis à la porte de chez Hachette dès que la conjoncture avait été moins bonne, c'est-à-dire dès le renversement du ministère Blum, on avait trouvé des prétextes pour me ficher à la porte, en raison naturellement de mon activité syndicale et du fait que j'avais signé le contrat collectif en face de M. Scheller. Mais le fait est que j'avais donc ni situation possible, enfin j'ai fini par trouver une situation à Roanne dans l'assurance, parce que j'avais fait un peu d'assurance après mon chômage consécutif à ma mise à la porte de chez Hachette. J'ai trouvé une situation à Roanne. À Roanne, où nous avons vécu pendant un certain temps. Et là, alors, se place, du point de vue de l'écriture, quelque chose d'assez particulier. Il se trouve que c'est à ce moment-là que je commence à écrire les textes qui seront réunis ensuite sous le titre de La rage de l'expression, et où il ne s'agit plus du tout de textes clos et de textes sous forme de bombe, enfin si vous voulez, mais tout à fait autre chose, d'une espèce de journal de mon appréhension de quelque objet ou de quelque notion. Voilà. J'avais en vérité commencé déjà un peu avant la guerre avec des textes qui s'appellent « Notes prises pour un oiseau ». Mais c'est à ce moment-là que je les ai développés. Naturellement, je restais communiste à ce moment-là, j'ai été assez rapidement en contact avec le Front National de Zone Sud, qui m'a prié seulement de me tenir tranquille, puisque c'est chez nous, enfin à Roanne, que descendaient souvent des personnalités les plus importantes du Parti communiste et du Front National pendant cette période. Je n'ai donc pu commencer à agir dans la résistance, parce qu'on me demandait de fiche la paix, d'apparaître simplement comme un employé d'assurance à Roanne, parce que je ne devais pas être suspect, puisque notre appartement, en réalité, servait à des rencontres ou au logement de militants plus importants que moi. Ensuite, l'entrée des Allemands en zone sud, le fait que de Roanne, j'étais passé à Lyon, où j'ai fait partie de la rédaction du Progrès, qui était à ce moment-là entièrement résistante, mais qui a dû se saborder au moment de l'entrée des Allemands en zone sud. À ce moment-là, j'ai pu alors prendre une activité de résistance très active, puisque j'étais voyageur politique, pour le comité des journalistes en zone sud, et que j'ai passé de nombreux mois à voyager en zone sud pour grouper les journalistes qui pouvaient prendre possession des journaux en liaison avec les ouvriers de l'entreprise, de l'imprimerie, etc., au moment de l'insurrection. J'ai donc mené à ce moment-là, à partir d'un village de l'Ain, Coligny, où nous nous étions retirés après le sabordage du Progrès, j'ai pu à ce moment-là travailler parce que j'avais tout de même exigé, au moment où j'ai accepté ce travail de résistance, après l'avoir sollicité d'ailleurs, n'est-ce pas, je voulais le faire, mais j'avais dit, il me faut 3 semaines d'activité militante, mais 1 semaine pour moi. Je veux absolument pouvoir travailler pour moi à mon propre travail, qui est un travail d'écriture. Et j'avais posé cette condition qui avait été immédiatement acceptée. Il est vrai que certains mois, je n'ai pas eu ma semaine. À d'autres mois, j'ai eu un peu plus d'une semaine et j'ai pu continuer à écrire. Ensuite, j'ai continué mes textes de La rage de l'expression, mais en même temps, j'ai commencé à écrire les textes plus importants qui s'appellent, par exemple, Le Volet, La Terre, etc., qui m'étaient dictés par mon désir de continuer à accomplir ma fonction proprement d'écrivain. La fin de la guerre, tout avait changé aussi d'une façon très, très considérable dans ma situation, comment dirais-je, dans le monde de l'esprit à ce moment-là. Vous savez que c'était le commencement du grand succès de l'existentialisme. Il se trouvait que j'avais été très lié avec Camus pendant la résistance à la fin de la guerre et que Sartre avait écrit son important essai sur moi. Il se trouvait du fait aussi que j'avais cette direction littéraire d'action, que je voyais énormément de monde. Il s'est trouvé aussi, alors ça nous l'aborderons plus tard, que j'ai commencé à voir les peintres, n'est-ce pas? Ma situation avait beaucoup changé. Et il s'est trouvé que j'ai été amené à quitter Action et ensuite le Parti communiste. Et d'autre part, qu'il m'était demandé une grande quantité de textes et qu'on me proposait de les publier. Et donc j'étais enclin à me consacrer purement à ce travail littéraire. Malheureusement, ce travail ne rapportait que très très peu finalement, et j'ai connu des époques terribles au point de vue des finances. J'avais ma famille, ma femme, ma fille, et je cherchais chaque jour 100 francs de l'époque ou 200 pour les faire vivre le lendemain. J'étais dans une époque très noire dont je ne suis sorti relativement qu'au moment où j'ai pu accepter d'être professeur de l'Alliance française, ce qui m'a mené jusqu'à l'âge de la retraite, mais ce qui m'a permis de travailler pour moi. Voilà.
Vous venez venez d'entendre le cinquième de la série des entretiens avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, vie et travail à l'époque surréaliste, 1930-1940. Assistant Jacques Devin. Vendredi 28 avril à 22h40, sixième entretien, la peinture et les lettres.